mais je ne m'attarderai pas plus. Je vous avance, je vous dis que ce sera un peu trop long, et quand vous êtes au séminaire, ça double un peu trop. Je vois l'époque aussi au séminaire. Je veux dire que ce n'est pas la même chose, l'époque du séminaire et l'époque du cours, et étant donné la difficulté du sujet, on peut l'entendre parfois, les perspectives différentes, étant donné que c'est quand même difficile. Alors, je reprends le livre pour que nous voyons mieux ce chapitre-ci que nous allons voir maintenant. L'effort d'Aristote est toujours donc de saisir le qui est-il ou qui a. Qu'est-ce que c'est-il ? Et pour lui, c'est capital parce que le qui est-il ou qui a rejoint le qui est-il de l'être. Et c'est pour ça qu'en précisant le qui est-il ou qui a, on pénètre dans ce que représente la philosophie première. Si on ne saisit pas le qui est-il ou qui a, on ne peut pas pénétrer dans cette considération particulière de la philosophie première. C'est de saisir ce qui est en tant qu'être. Là, il y a des données extrêmement importantes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'Aristote identifie l'être et la substance comme dit Giton. C'est pas juste. Giton, c'est la deux grandes erreurs. Il identifie qu'Aristote identifie la substance et l'être, et il dit qu'il identifie la substance et la forme. Alors, dès qu'on regarde le point de vue du livre de Détat, je dis ça parce que c'est important, parce qu'à partir de là, il dit la métaphysique d'Aristote est la métaphysique de la forme. Tandis que la métaphysique de Saint-Thomas, c'est une autre métaphysique, c'est la métaphysique de l'esprit. Dès que vous regardez le livre de l'État, vous vous apercevez que le problème est un peu plus complexe. Vous vous apercevez en effet qu'Aristote dit que la substance l'usia est très très importante. Et que saisir le qui l'usia, c'est saisir le qui de l'être. C'est très vrai, point de vue-là. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une identification entre les deux. Saisir le qui de l'être, le qui l'usia, c'est saisir le qui de l'être. Mais il y a d'autres questions sur l'être. Et nous verrons qu'il y a d'autres questions sur l'être. Après le livre de Plato, la philosophie première n'est pas terminée. Il y a encore d'autres aspects dans la philosophie première. Et s'il y a des identifications entre l'être et l'usia, la philosophie première d'Aristote s'arrêterait avec le livre de Plato. Alors la philosophie première d'Aristote ne s'arrête pas avec le livre de Plato. Il y a d'autres enquêtes, il y a d'autres recherches qui montrent bien, encore une fois, qu'on ne peut pas identifier les deux. Mais cependant, il faut reconnaître que lorsque je suis dans l'interrogation du Dieu, l'interrogation du Dieu est une interrogation fondamentale, c'est justement celle qui me permet de déterminer ce qu'est la chose. Lorsque je suis dans la perspective du Dieu, il y a une rencontre entre savoir le Dieu de l'être et le Dieu de l'être. Ça se dit avec beaucoup de force, et je crois que c'est quand même un aspect très important dans la pensée d'Aristote. Savoir le qui est-il de l'usia, c'est essayer de comprendre justement ce que c'est la substance. Or, Aristote se trouve devant certaines opinions sur la substance, et en gros, il se trouve surtout en face de ce que Platon a dit sur la substance, et Aristote n'est pas d'accord avec ce que dit Platon sur la substance. Alors, il s'agit d'essayer de voir l'erreur. Ça, il est toujours très, très polarisé d'une certaine manière, avec Platon et avec les satellitiens, c'est pas surtout les satellitiens. Et donc il est là en attitude, si vous voulez, il est précisé exactement pourquoi on ne peut pas identifier la forme et l'usia. On ne peut pas ramener d'une certaine manière l'usia aux formes. Alors la première chose qu'Aristote montre, c'est qu'on ne peut pas dire que le qui est-il de l'usia, c'est le sujet. Vous l'avez vu. Bien qu'encore une fois, le sujet est quelque chose de fondamental et que la substance est quelque chose de fondamental. Et donc, il y a entre sujet et substance, il y a toujours une certaine, je vais presque dire, une rivalité. Vous voyez dans quel sens? C'est qu'il y a toujours quelque chose de parallèle entre les deux. C'est que la substance va de fait jouer le rôle de sujet. En logique, la substance première, c'est le sujet. En logique. Si donc j'identifie logique et métaphysique, j'aurai toujours la tendance de dire que la substance, c'est le sujet. Parce que du côté logique, on peut dire en effet que la substance première, c'est bien le sujet. Donc nous voyons là tout de suite, du côté de la logique, que l'identification de la substance et du sujet montre bien qu'il y a un parallélisme entre les deux. Je crois qu'on peut dire qu'une des fonctions principales de la substance, une des fonctions principales de la substance, c'est d'être le sujet. Mais ce n'est pas le qui est-il de la substance. Autre chose, la fonction. Autre chose de qui est-il. Or, on montre par là qu'il y a une société. Et la grande raison de l'Aristote, qu'on ne peut pas dire que qui est-il de la substance, c'est le point de vue du sujet, parce que si on disait que ce qui est dit de la substance serait le sujet, on devrait identifier la substance et la matière. Or, la matière ne peut pas être substance parce que la substance est un sujet. Parce que la substance est un être premier, un être pris au sens le plus fort. Or, la matière est toujours quelque chose de second. On présuppose comme ce que c'est que la matière. Hein. Aristote a précisé ce que c'était que la matière en philosophie de la nature. Et en philosophie de la nature, il a précisé ce que c'est que la nature. Et donc, il montre là qu'on ne peut pas identifier le point de vue de la substance et le point de vue du sujet. Et là, il y a donc un aspect qui est très important. Il est important de voir que c'est la première chose qu'Aristote rejette. Il rejette cette identification. C'est l'identification qu'on fait plus facilement quand on identifie logique et métaphysique et quand on identifie philosophie de la nature et métaphysique. Parce que en philosophie de la nature, le point de vue fondamental, c'est le sujet. Et en philosophie de la nature, on peut d'une certaine manière ramener le point de vue de la substance au point de vue du sujet. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui demeure. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de Platon. Hestia, la déesse Hestia, c'est celle qui demeure. Et que Platon considère que c'est le point de vue Hestia et Ousia, qui a un lien entre les deux. Donc quand vous regardez la substance uniquement comme ce qui demeure, par rapport au devenir, ce qui demeure, c'est le sujet. Et donc vous avez là un parallélisme très important à saisir entre le point de vue de la substance et le point de vue de ce qui demeure, c'est-à-dire le point de vue du sujet. Donc, si vous identifiez philosophie première et logique, philosophie première et philosophie de la nature, vous aboutissez fatalement à dire que le qui est qui de la substance, c'est le sujet. Car ça n'accepte pas que pour lui, justement, la philosophie première n'est pas la logique et que la philosophie première n'est pas la philosophie de la nature. Ensuite, Aristote va regarder le point de vue de voir comment la substance est parallèle à la forme et cependant n'est pas la forme. C'est ça, ce point de vue-là. Et on comprend comment on vient à ça parce que si la substance n'est pas le sujet, immédiatement, ce qu'on va regarder ensuite, c'est le point de vue de l'existence, c'est le point de vue de la forme. Il y a des raisons historiques, et puis il y a une raison très très nette, c'est que si la substance n'est pas la matière, elle est sa forme. Là. Que la forme a une primauté sur la matière. Mais toujours, ce qui est premier dans un ordre donné a un parallélisme avec l'ousia. Parce que l'ousia, c'est justement ce qui est premier dans l'ordre donné. Alors nous allons, à partir du chapitre 3, entrer dans cette grande confrontation, et Aristote dit que c'est la chose la plus difficile. Pas dire que la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est d'essayer de voir la différence entre la forme et le point de vue de l'idée. Et je crois que là, au point de vue philosophique, il y a un intérêt très grand, même si quelquefois dans les discussions d'Aristote, c'est pas toujours très finalisé, vous voyez, en fait, on peut dire, on voit pas tout de suite l'intérêt. Je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement important à dire. Je crois que je reviens un peu, parce que quand on est ce cours, on doit nous aider à mieux comprendre le point de vue philosophique. De voir que l'aide pour Aristote, pour Aristote, c'est mort. Se prête par rapport à la matière. Autrement dit, la division forme et matière est une division typique de la philosophie de la nature. Ce n'est pas une division propre à la philosophie première. Je vous l'ai dit, je le répète, je crois que c'est très important d'écouter ça. C'est très important qu'elle nous libère d'une quantité de chaînes dans laquelle on reste et dans laquelle on reste lié. La distinction matière et forme est une distinction qui est une distinction grecque antérieure à Aristote. C'est pas Aristote qui l'a fait la première, elle est bien antérieure à Aristote. Et Platon la donne d'une façon grandement forte. La distinction matière et forme. Mais pour Platon, il y a une forme, justement, qui n'est pas le rôle de la matière. Et donc la distinction de dualisme matière et forme est une distinction extraordinairement profonde chez Platon. Et chez Platon, elle est une distinction qui va jusque dans l'ordre de l'être. Au fond, c'est vraiment cette distinction-là qui commande toute sa grande vision. Aristote en parle de cette distinction matière et forme, cette distinction de Platon, que Platon à laquelle Platon a donné une telle importance. Que va faire Aristote? Il va relativiser cette distinction. Je crois que c'est ça qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important à saisir. Il va relativiser cette distinction en comprenant que cette distinction matière et forme est une distinction qui est au niveau de la nature et qui est au niveau donc de la philosophie de la nature. La philosophie de la nature est la philosophie de ceux qui sont. Donc, fait des réformes et des distinctions à l'intérieur de ce qui est vu. C'est l'être sensible, l'être qui est vu qui implique la distinction de ses réformes. Il retrouve la distinction dans la philosophie du vivant parce que le vivant est encore un être nu. Et donc, en tant qu'il se meut, il est nu aussi. Et donc, on retrouve la même distinction entre matière et forme. On aura la distinction âme-corps. C'est une transposition de cette distinction forme-matière. Ce qui n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a une précision particulière quand on dit âme et quand on dit corps, on ne dit pas matière et forme, mais on voit très bien que c'est un dualisme semblable, analogue, si vous voulez, à celui de matière et forme. Quand on est en philosophie de première, ce qui commande tout, c'est le point de vue de l'être, mais plus le point de vue du venir. Or, dans cette perspective de l'être, Aristote essaie de saisir ce qu'est l'être. Pour saisir ce que l'être, il faut saisir ce qu'est la substance, et donc il s'agit immédiatement de voir si la substance, ce qu'est la substance, ce qu'est la substance dans qu'elle a de plus d'elle-même, est-ce qu'on peut identifier le cas. Si vous identifiez substance et exode, puisque pas de matière s'oppose, nécessairement substance et matière vont s'opposer. C'est autrement ça. S'il y a une opposition entre matière et forme, il doit avoir retrouvé la même opposition entre substance et matière. Or, justement, on va voir comment la substance va aller plus loin de la forme et va dépasser cette distinction matière et forme. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que la matière est un principe substantiel d'individuation. Comment on ne peut pas dire ? C'est matériel. On ne peut pas expliquer comment, de fait, le point de vue corporel est essentiel et substantiel à l'homme. Il y a une division, une opposition. Pour Platon, ça ne fait pas du tout, puisqu'au fond, l'homme, c'est son âme. Le corps est le sépulcre de l'âme. Alors, le corps, c'est par le fait même. Donc, il ne fait pas du tout partie de la substance. Tandis que dans la vision d'Aristote, au contraire, cette vision de l'unité de l'homme, cette unité de l'homme au niveau de son être et au niveau de sa vie, il faut essayer donc de les comprendre. Alors, on comprend que le problème de la substance et de la forme est un problème capital pour Aristote, tout en reconnaissant que c'est très très difficile. C'est très difficile de voir comment le sceptique de la substance n'est pas le principe de la forme. Je crois qu'on peut dire que la substance va en quelque sorte impliquer tout ce qu'il y a dans la forme, mais qu'on ne peut pas ramener la substance, le sceptique de la substance à la forme. Vous voyez, alors c'est cet effort que nous faisons pour essayer de comprendre comment la substance, le sceptique de la substance ne peut pas se ramener à la forme. Comme c'est très très difficile, Aristote va prendre une double méthode. Je vous suis beaucoup. Une méthode logico et une méthode physico. Donc le logico, c'est ce qu'il va commencer à faire quand Aristote commence à parler à partir du chapitre 4. Alors le logico d'Aristote, nous avons déjà commencé à le voir, mais faut tout faire venir, je vous l'ai dit, le logico d'Aristote peut prendre des significations différentes. C'est une méthode d'intelligibilité critique, une méthode logique au sens aristotélicien, c'est-à-dire logique en appliquant le point de vue de la signification. C'est pas logique purement formelle. Mais c'est logique en indiquant voici la signification. Alors on va regarder uniquement la signification, c'est l'option. C'est le logos, en quelque sorte. Et là aussi, comme c'est difficile de traduire le logos, d'Aristote. Qu'est-ce que ça représente? On va avoir un discours, si vous voulez, une recherche qui va essayer d'être la plus rigoureuse qui soit dans l'ordre de la signification. Donc on va pas regarder ce qui est. On ne va pas regarder l'ordre existentiel, comme on dit aujourd'hui, on ne regarde pas ce point de vue-là, on regarde uniquement le point de vue de la signification profonde qui est instituée dans le point de vue de l'époque pour voir si cette signification va rejoindre la signification de l'histoire. C'est toujours le but d'essayer de voir la différence des buts entre l'époque et l'histoire. Réfléchir à quelle différence existe entre l'époque et l'histoire. L'époque, première dans l'ordre du devenir. La substance est première dans l'ordre de l'être. L'exode est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Dans l'ordre de l'intelligibilité, nous connaissons par exemple. C'est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est premier dans l'ordre de la définition. Qu'est-ce qu'on définit? C'est l'exode. Alors, est-ce qu'on pourra mettre identité entre les deux? Alors nous avions vu le chapitre 45 déjà les deux dernières fois, où Aristote commence l'étude du rapprochement de l'Eidos par rapport à Lydia en voyant le Toti Emena. Alors, ce mot qu'Aristote a fabriqué, Toti Emena, Aristote a fabriqué justement pour essayer de réduire la différence qui existe entre Lydia et l'Eidos. C'est ça qu'il faut saisir. C'est qu'il a, quand il s'agit d'un mot, c'est parce que justement, il y a là un aspect particulièrement important. Saisir la différence qui existe entre substance et l'Eidos, c'est pas comme mort. Alors on va étudier l'intelligibilité de l'Eidos. Qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité de l'Eidos? Comment l'Eidos, face à l'intelligence, détermine l'intelligence? L'intelligibilité de l'Eidos, c'est le taux qui est là. Le Toti Emena, j'espère que vous arrivez à savoir à peu près ce que c'est. Bon, le Toti Emena, au bout d'un certain temps, il faut savoir, ne pensez pas quoi, cuidité, parce que ça ne dit rien, mais pensez à Toti Emena. Bon, purifier, cuidité, revenez à la source. Et c'est beaucoup mieux, ça. Le mot cuidité, après, on ne sait pas du tout, on l'accroche comme ça sans voir du tout. Tandis qu'au contraire, le Toti Emena, situez-le de cette manière. Hein. La différence qui existe entre l'Eidos et l'Eidia. Alors, mettez côté l'Eidia entre les deux. Et par là, vous allez décrire comment, de fait, on ne peut pas identifier l'Eidos et l'Eidia. Et pourtant, Ouzia implique toujours l'Eidos. Il y aura toujours dans Ouzia, il y aura quelque chose. Mais il y aura quelque chose de plus. Il y a une compréhension dans Ouzia qui ne peut pas se ramener à l'Eidos. Et pour mieux comprendre cela, je prends le côté des larmes. Alors le côté des larmes, donc, ce que représente l'intelligibilité profonde. Nous avions vu, en terminant, la conclusion de ce chapitre 4 et de ce chapitre 5, c'est que le côté des larmes, comme le point de vue du qui est qui, comme le point de vue de l'être, se dit polako. C'est-à-dire se dit de diverses manières. Le Toti Emena peut se penser de diverses manières en ce sens. Vous avez un propos, il y a un ordre, il y a un premier dans le site de Toti Emena, le Toti Emena. Il y a un premier. Ce premier, c'est bien le point de vue de la substance. Mais il y a un second, qui est le point de vue de la qualité. Il y a un premier bien ici. Autrement dit, toutes les catégories, ainsi qu'une certaine forme, la qualité d'une certaine forme, la relation d'une certaine forme, l'action d'une certaine forme. Toutes les catégories ainsi d'une certaine forme. Et toutes les catégories ont une certaine intelligibilité. Donc, elles ont un côté ménage. Il y a un côté ménage de la qualité, il y a un côté ménage de la quantité, il y a un côté ménage de ce que représente la relation. Mais, évidemment, le côté ménage ne se trouve parfaitement lui-même que dans la substance. Et là, il est proto en premier lieu, et il est en second lieu dans les autres. Ce qui nous fait tout de suite voir que nous ne pouvons pas identifier le qui est qui de la substance avec le dossier ménal. Parce que si on identifiait le qui est qui de la substance avec le dossier ménal, on devrait nécessairement dire, puisque la qualité implique un dossier ménal, nous voyons toute la différence entre substance et qualité. Et donc, nous oublions que la substance est première par ordre de l'être. Alors, voyez ce que ça représente, là. Ça nous fait comprendre que le premier dans l'ordre de l'être est nécessairement premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Tout simplement. L'intelligibilité d'une propriété d'être est une conséquence. Si la substance est première dans l'ordre de l'être, nécessairement la substance doit être première dans l'ordre de l'intelligibilité. On pourrait dire ça tout de suite, hein. Mais Aristote ne le dit pas tout de suite, il se sert de l'intermédiaire des taux qui est mental pour lui faire comprendre comment la forme, toute forme, induit un côté ménage. Toute forme. Toute forme implique une certaine intelligibilité. Toute forme possède une certaine intelligibilité. Mais dans cette intelligibilité, il y a un certain ordre. Il y a donc une première intelligibilité la plus parfaite qui est celle de la substance. Non. En gros, oui, l'esprit de la vie. Nous arrivons au chapitre 6. Parce qu'avec le chapitre 6, on va donc donner quelque chose de nouveau. Difficile, ceux qui ont suivi le séminaire se sont aperçus de la difficulté de ce chapitre 6 et de l'intérêt de ce chapitre. Aristote dit, c'est pas inutile de faire cette recherche. Nous de courage. C'est pas qu'il suffit de faire ce projet. Et c'est très vrai, la recherche de la vie politique est quelque chose qui est comme un appel au chapitre 4 et 1. Je vous prie comme un appel, un notable. Ça nous arrive. D'une certaine manière, on va faire du stationnement. On va pas. C'est pour ça que j'avais hésité de laisser tomber. Mais il y a quand même un intérêt pour venir. Bon, on va faire un stationnement, vous allez voir. C'est très net. Aristote va répondre de fait à des attaques. Je crois qu'il faut comprendre le chapitre 6, il faut regarder la fin du chapitre 6. Les arguments sophistiques, dit-il, 1032a, les arguments sophistiques récitant cette position sont manifestement démolis par la même solution apportée au problème de savoir si Socrate et l'être de Socrate sont identiques. En effet, il n'y a pas de différence, ni du point de vue de ce qui est à l'origine des questions, ni du point de vue de ce qui permet d'obtenir la solution. Oui. Donc, tout ce chapitre 6, c'est une réponse à des attaques sophistiques. C'est un très bon passage, très intéressant de ce point de vue-là. C'est donc bien, nous sommes bien dans le point de vue du logico. Nous restons dans le point de vue du logico. Ce sera à partir du chapitre 7 que nous allons entrer dans quelque chose qui est un tout petit peu plus facile. Parce que proche du logico. Alors, c'est-à-dire, pour nous, nous sommes tellement plus habitués à la dialectique aristotélicienne et aux réfutations aristotéliciennes. Ça exige ce fait de souplesse de l'intelligence humaine, extrêmement grande et intéressante. Mais c'est un peu un jeu, si vous voulez. Alors je crois qu'il faut prendre la fin de ce chapitre 6 pour expliquer toute la couleur particulière de ce chapitre 6. Donc je relis les arguments sophistiques récitant cette position sont manifestement démolis par la même solution apportée au problème de savoir si Socrate et l'être de Socrate sont identiques.
Exactement ce que chacun est relativement à son côté, mesdames.
Donc ça va à la fois préciser le degré de ménage et puis mieux montrer comment il peut y avoir d'identité entre les deux. Alors, si vous permettez, je vous donne là, que vous compreniez mieux l'intérêt de ce petit appendice qu'Aristote nous donne, en nous disant que c'est utile à notre recherche de la substance. Et oui, donc il y a soin de préciser, la première chose, c'est que les futures constructions dialectiques n'ont aucun intérêt. Je crois que ça a un intérêt. Il y a un intérêt qui est grand comme tel. Alors, cette petite chaîne, toujours pour réfléchir sur ces notions. Nous avons au niveau logique une distinction, tout revenir à cette distinction des catégories. Le domestique, substance première. Et puis la substance seconde, qui est tout simplement l'espèce. Ou le genre. Alors, nous avons substance première, le domestique. Alors la substance première, c'est le sujet. Très gros, le sujet, il ne faut pas aller plus loin, c'est le sujet, la substance première. Tandis qu'au contraire, la substance seconde, c'est l'espèce, c'est le genre, c'est une attribué. De fait, c'est l'inna joue toujours un rôle, parce que la logique, c'est de fait que tu conditionnes notre vie intellectuelle, c'est le conditionnement de notre vie intellectuelle, ce sont les prix très profonds de notre vie intellectuelle. Que nous essayons de montrer dans la logique. Ce n'est pas la vie de l'intelligence, mais ça explique le conditionnement de l'intelligence. Notre intelligence, de fait, a toujours la tendance de ramener au sens fondamental sujet à action. Alors, la substance première de son défi, l'espèce. Nous avons vu comment Aristote regardait le son défi, le sauté-ménage. Le sauté-ménage qui était précisé l'intelligibilité pour dépasser la substance seconde. Un dépassement de la substance seconde. Et je crois qu'il faut essayer de mettre ici les castors. Les castors, c'est du côté du sujet sans être le sujet. Très très curieux. C'est chacun d'entre nous, que nous sommes, le sujet de notre être. Des sujets des opérations, et Aristote ne parlera seulement pas du sujet. C'est qu'au fond, ce que chacun est en lui-même. Ce que chacun est en lui-même. Ce n'est pas le catoto, qui est exprimé justement par le sujet Lennan. L'intelligibilité, c'est quelque chose d'autre. Et il n'est pourtant pas le sujet. C'est pour ça là, il y a une subtilité qui est très très curieuse à saisir, et qui je crois est important à saisir. Vous voyez, c'est en quelque sorte le ceci. Le ceci. Dans notre détermination, nous avons tous une détermination fondamentale qui est ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Oui. Mais ce que nous sommes pas en regardant comme sujet. En regardant dans sa détermination fondamentale. Alors est-ce que, vous voyez, homme, dans le sens concret, tandis que le taux des ménages, c'est l'intelligibilité. Il y a plus d'identification entre les deux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ici nous sommes au niveau du cause, et ici nous sommes au niveau du cours. Le fond, c'est le poids et le poids. Mais pas tout à fait, puisque le poids, c'est beaucoup plus immédiatement le sujet. Mais c'est très proche de ça. C'est très proche de ça. Je crois que pour comprendre bien tout ce que dit Aristote, il faudrait se replonger un instant dans tout ce qui est dit dans le parvenir. C'est très curieux, nous retrouvons dans le parvenir constamment le point de vue de l'écastome, le point de vue de voir si, justement, il y a une identification. Je ne dis pas du tout que c'est la prise parvenir. Mais au fond, c'est constamment ce point de vue-là. Vous avez bien le point de vue du Parménide, si on essaie de comprendre le point de vue du Parménide, c'est l'autocritique de Platon. Pour essayer de saisir si, de fait, les formes sont bien celles qui s'appellent pour lui. Ou est-ce qu'il faut aller au-delà des formes. Alors on se demande si l'un est non l'un, si l'un est être ou pas être. Alors on se pousse dans tous les sens. Pour essayer de comprendre si les formes sont bien quelque chose de premier. Or, ici, Aristote se demande si le point de vue du social est mal, la trinité, est identifié avec la sorte. Est-ce que c'est bien l'ultime intelligibilité que nous avons? Donc, il y a une perspective à même ordre. Vous voyez, je ne dis pas que c'est la même perspective. C'est la même, c'est une perspective à même ordre. Ce qui est curieux, c'est que nous retrouvons les mêmes expressions. Nous retrouvons les mêmes expressions. C'est Ecaston qui joue ce rôle particulier. pour exprimer comment une réalité en quelque sorte se définit elle-même. C'est pas seulement sa fluidité, c'est pas seulement son intelligibilité, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de plus radical. Ce quelque chose de plus radical qui n'est pas le sujet, mais qui est d'une certaine manière la manière dont la fluidité, je ne dis pas existe, que nous ne serions pas dans l'oricos, mais possède une intelligibilité nouvelle. Est-ce qu'il y a dans les castors une intelligibilité irréductible à celle des autres ménages? Je crois qu'on pourrait poser la question comme ça. Est-ce qu'il y a dans les castors une intelligibilité autre, irréductible à celle des autres ménages? Et la réponse d'Aristote est très simple. Ça peut se dire, on va voir le raisonnement si vous voulez, mais pour vous donner tout de suite la solution. La solution est très très simple. Lorsqu'il s'agit des réalités composées, il ne peut pas y avoir identité entre le fossé Neyman et les castors. Une réalité composée, homme blanc, c'est toujours l'exemple choisi par Aristote, pas Esquivel particulièrement. Alors, homme blanc, ou homme musicien, parce que deux amours grecs. Alors, homme blanc, c'est que de fait, homme blanc, la cuidité de homme blanc ne s'identifie pas à homme blanc. Ne peut pas s'identifier parce que la cuidité de homme blanc implique deux significations, homme et blanc. Il y a deux significations, il y a une double signification, ce ne sera même pas un cadeau d'autre au sens absolu. Alors parce qu'il y a double signification, ça ne peut pas se ramener à Ekaston, à ce que représente homme blanc dans ce sujet. Il y a une double signification. Tandis qu'au contraire, lorsque nous sommes en face de réalité première, alors à ce moment-là, le dossier Neyman s'identifie à l'Ekaston. Et donc l'intelligibilité que nous avons par le dossier Neyman s'identifie à l'Ekaston. Et le dossier Neyman représente bien l'intelligibilité derrière. Et Aristote ne prouve pas cela. Il le montre tout simplement par un raisonnement par mode d'impossibilité. Et c'est pour ça que tout ce chapitre, pour ceux qui s'intéressent à la méthode d'Aristote, tout ce chapitre représente, comparativement au chapitre précédent, quelque chose de tout à fait différent. Et c'est pour ça que je vous ai cité le passage à la fin du temps. C'est parce que nous sommes vraiment en face d'une réfutation. Nous réfutons des thèses qui diraient qu'il y a une diversité entre le dossier Neyman et les castors, qui séparerait l'intelligibilité du réel. Il dirait que l'être, c'est qu'il est, et Castor en lui-même, est distinct de son intelligibilité. Et il faut séparer l'intelligibilité de la chose de la réalité. Aristote montre que séparer le dossier Neyman de Castor, ce que dans ce qui est sa réalité, aboutit à des impossibilités. Et c'est pour ça que tout ce chapitre, c'est un raisonnement par mode d'impossibilité. Donc, d'une certaine manière, ça n'apporte rien de plus, vous avez dit au point de vue de l'intelligibilité et de la précision à l'égard de l'IA, ça n'apporte rien de plus. Nous n'allons pas être plus avancés au terme pour savoir ce que c'est que l'IA. Non, on ne va pas être plus avancés. Parce que les castors n'expliquent pas ce que c'est que l'IA. C'est toujours le dossier Neyman dont Aristote se sert pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'IA. Mais ça a l'avantage de montrer qu'on ne peut pas séparer les castors du dossier Neyman. Et donc, le point de vue de la substance qui est le dossier Neyman doit rejoindre nécessairement le point de vue des castors. Je crois que c'est ça le raisonnement essentiel de ce chapitre. Vous voyez ? Alors, si vous voulez, nous allons voir, je ne veux pas entrer trop dans tous les raisonnements, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est difficile. Et pas surtout quand on ne peut pas suivre la plume à la main, c'est très difficile. Spécialement, c'est un dévotif. Les autres ont une finalité immédiate. Un raisonnement par mode de réputation sophistique ne conclut à rien. C'est pas par esprit. Alors, comme par esprit, ça ne donne rien du tout possible. Donc, voici. Lorsqu'il s'agit des choses qui se disent catastrophes, il semble bien autre le dossier Neyman et les castors. Donc toutes les réalités qui se disent par mode de composition, toutes les réalités qui se disent par mode de accidentelle, tout ce qui se dit selon une chose accidentelle, l'homme blanc, il ne peut pas y avoir identification entre le point de vue du dossier Neyman et les castors. Le dossier Neyman est autre, hétérome. Donc il est différent du point de vue de l'Ekaston. Et la raison est très très simple, c'est par mode d'impossibilité. S'il y avait identité, il y aurait identité de l'être homme et de l'être homme blanc. Vous avez déjà vu ce genre de raisonnement. Donc on reprend le même pour nous faire comprendre qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de simple et d'identité des deux. Donc on rejette le point de vue-là. Et Aristote donne après un second aspect du mode par accident, qui est le point de vue de deux accidents entre eux. Autrement dit, Aristote prend deux cas de composition, le sujet et l'accident, et deux accidents entre eux. Si vous unissez deux accidents entre eux, deux extrêmes accidentels, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir identité entre le point de vue de leur fluidité, leur point de vue d'autéménal et le point de vue de ceci. Alors réfléchissez entre le point de vue concret, le point de vue abstrait, je crois que ça nous aide à comprendre cela. L'homme blanc et les deux aspects qui sont dans l'homme blanc. La crudité du blanc, la crudité de l'homme. Même si un blanc, en réalité, peut être une réalité unique, ce n'est pas un homme blanc qui est une réalité unique, ce n'est pas dans son existence qui est une réalité unique. Cependant, si je réfléchis ici, je réfléchis sur la signification de l'homme blanc, il y a deux significations. Et donc, le hécatome de homme blanc ne peut pas être identique au dossier des lames de homme blanc. Deuxième partie de chapitre 6, pour l'hérédité qui se dit par soi, katoto. N'est-il pas nécessaire qu'il y ait identité entre le dossier des lames et chacun? Alors, Aristote montre aussi. Cette thèse par mode d'impossibilité. Donc c'est vraiment une réputation à l'égard de ceux qui refusent l'identité. Si le bien et l'être bien diffèrent, si l'être et l'être du onti, de ce qui est diffèrent, il y aura d'autres substances en dehors de celles-ci qui seront antérieures et plus puissantes, puisque l'oubia est plus. Donc, si vous prétendez qu'il y a une distinction entre le bien, qui est justement quelque chose pris d'une façon absolue, surtout dans la perspective des idées, on prend les substances premières qui sont comme les idées, on prend ça un petit peu d'exemple. Si vous prenez donc le bien en soi, le bien est quelque chose de premier. Et si vous n'identifiez pas le social mental du bien et ce qui est le bien, vous aurez nécessairement une possibilité de réfléchir sur le point de vue de la dualité qui existe entre les deux, la crudité du bien et le bien en soi, qui vous permettra d'aller plus loin. Et donc, ce ne sera pas le bien en soi, ce ne sera pas la substance première. Oui, je reprends pour que vous preniez bien. Le bien en soi est substance première, il est cité. S'il est substance première, il n'y a rien à voir. Si vous mettez une distinction entre le dossier ménage du bien et le bien en soi, vous avez donc possibilité de dire qu'il y a un bien plus pur que le bien en soi, qui est justement le bien dans toute sa pureté, dans toute son indéfinibilité, et donc il serait antérieur au bien. Donc le bien en soi ne serait plus la substance première. Si vous mettez une distinction entre le dossier mental et l'hécatome, vous brisez la primauté de la substance. Je crois que c'est pas l'idée. Alors, il y a toutes les autres impossibilités quand je m'arrête. Et la fois prochaine, je verrai avec vous plus rapidement les autres chapitres pour insister davantage sur le dernier chapitre. C'est ça pour le dernier chapitre.